Bien, bonjour à tous, frères et sœurs. Alors, vous avez remarqué, ce matin, on a beaucoup parlé de peur, de frayeur. Je vois que les sièges de devant sont encore libres. Vous pouvez aussi vous rapprocher. Est-ce que vous avez déjà connu ce sentiment qu'est la peur? Ou bien est-ce que vous vous dites, moi, peur, jamais, même pas peur? Ou êtes-vous de ceux qui se disent, de toute façon, je suis comme ça, je ne pourrai jamais m'en débarrasser, j'ai appris à vivre avec? Ou êtes-vous de ceux qui connaissent la peur, qui en souffrent, qui les ont identifiées et qui aspirent à les combattre et à les vaincre? Ce matin, je vous propose donc de lire dans le psaume 34, qui parle justement d'un homme qui a connu la peur, un homme de Dieu que vous connaissez tous, hein, c'est David, et qui pourtant a connu la peur. Donc le psaume 34. Je lirai le psaume 34. De David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chassé par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et ils sont ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant. Et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui vont au refuge échappent au châtiment. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais prier. Seigneur, merci encore de nous avoir laissé ta parole, Seigneur. Aide-nous à... Ouvre-nous le cœur, Seigneur, pour en retirer toutes les pépites, tous les trésors pour notre vie, Seigneur. Merci de nous l'avoir laissé par Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous... Je propose d'articuler ce message en trois parties. Premièrement, nous verrons les causes, quelles sont les causes et les conséquences de nos peurs. Deuxièmement, nous verrons comment remédier à la peur, quels sont les remèdes contre la peur. Et troisièmement, nous verrons l'appel de Dieu lui-même à savourer le salut de Dieu. Alors, premièrement, voyons les causes, quelles sont les causes et les conséquences de nos peurs. La définition de la peur, hein, d'après Wikipédia, c'est une encyclopédie sur Internet, voilà, qui grosse galop. La peur est une émotion ressentie généralement en présence ou dans la perspective d'un danger ou d'une menace. En d'autres termes, la peur est une conséquence de l'analyse du danger et permet au sujet de le fuir ou de le combattre. Une question qui vient plus naturellement après cette définition. Est-ce que notre analyse du danger est juste? Est-ce que la menace, en d'autres termes, est-ce que la menace qui nous fait peur est-elle réelle ou est-ce qu'elle est imaginaire? Ou bien est-ce qu'elle est réelle ou est-ce qu'elle est disproportionnée par rapport à sa réalité? Une étude a montré que près de 95% de nos peurs ne sont pas fondées. 95%. En grec, la peur se dit phobie. Et ça a donné des mots que vous connaissez tous comme claustrophobie, peur d'être enfermé, arachnophobie, peur des araignées, agoraphobie, peur de la foule, acrophobie, peur du vide, comme vous trouvez au fond d'une falaise, peur de la peur, et il y a encore d'autres peurs. La liste est longue, et je ne sais pas si on pourra la terminer. Il existe d'autres peurs comme celle de manquer du nécessaire, ou encore la peur de ne pas être à la hauteur dans un poste à responsabilité, professionnel ou autre, ou encore la peur de souffrir, physiquement ou moralement, ou encore la peur de vieillir, ou encore la peur de mourir. Alors la peur, elle peut se manifester de diverses manières. Physiquement, c'est du concret, hein. Quand on a peur, se manifeste par une accélération des battements du cœur, une difficulté à respirer, on manque de souffle, parce qu'on est angoissé, et on cherche sa respiration. Ça peut se manifester par des genoux qui s'entrechoquent, ça peut arriver quand on est du haut de la chair. Des tremblements, un bégaiement, une paralysie. Autant de symptômes extérieurs qui montrent la réalité de cette émotion intérieure qu'est la peur et qui nous touche tous. Qui peut dire qu'il n'a jamais connu la peur? Quelle peut être la cause de nos peurs? Mais on peut remonter loin, jusqu'à très loin. On peut remonter jusqu'au péché originel, en fait. Cette émotion n'était pas connue d'Adam et Ève, jusqu'à ce qu'il désobéisse à Dieu. Et lorsque Dieu se promenait dans le jardin, comme il le faisait chaque soir, et bien il a appelé Adam. Et il a demandé, « Où es-tu » Qu'est-ce qu'a répondu Adam en Genèse 3, verset 10? « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et que je me suis caché. » La première peur qui était née, c'était celle de Dieu. Et qu'est-ce qu'on voit là? Eh bien, on voit que le péché, notre péché, entraîne la peur. Et inversement, la peur peut entraîner le péché. On est dans un cercle vicieux. On n'a qu'à se rappeler une actualité récente. Il y a eu des bavures où des personnes armées ont eu peur et ont tiré sur leurs agresseurs. Sous l'effet de la peur. C'est David qui a écrit ce psaume 34 et c'est aussi la peur qui a été à l'origine d'actes peu glorieux de David. Mais attends, David, c'est bien celui qui a vaincu Goliath, ce géant, celui, le seul qui a osé confronter Goliath, qui l'a même terrassé grâce à sa foi inébranlable en Dieu. Oui, mais c'est bien ce même David, effectivement, et c'est bien lui aussi qui a connu, non pas une, mais il a connu des peurs, des frayeurs, même après sa glorieuse victoire contre Goliath. C'était après qu'il a connu des peurs. Et pourtant, sa réputation a été faite avec Goliath. Et dans ce psaume, il nous parle de ses frayeurs. Et comment il les a vaincus? Alors, si c'est possible pour lui, c'est aussi possible pour nous de les vaincre. On peut se retrouver en David. On peut se retrouver aussi bien dans ses forces que dans ses faiblesses. Si nous défaillons, ne désespérons pas nous-mêmes. Dieu reste fidèle. Et voilà le message encourageant de ce psaume. La fidélité de Dieu n'est pas proportionnelle à notre foi envers lui, même s'il récompense notre foi, pour nous encourager à lui rester fidèles. Alors, si sur le contexte de ce psaume, ça va nous aider aussi à mieux l'intégrer, David n'était pas encore roi en Israël, à ce moment-là, mais il fuyait le roi Saül. Et le roi Saül était jaloux de lui, à cause de la popularité qu'il a eue suite à sa victoire sur Goliath. Saül était jaloux de David au point de vouloir le tuer. Et il le poursuivait. Et David était en fuite. Et dans sa fuite, il est tombé sur le sacrificateur Ahimelech, qui lui a demandé « Pourquoi tu fuis ?» l'objet de sa fuite. Eh bien, David, à ce moment-là, il a menti. Il a menti à l'homme de Dieu, il a menti au sacrificateur. Pour quelle raison? Après, il a menti. Il avait peur. Et puis, événement suivant, il a fait une tentative de fuite désespérée chez les Philistins. Les Philistins, dont il avait vaincu leur champion. Et pour échapper à Abimelech, c'est quoi, le roi des Philistins, eh bien, David se sentait menacé, il avait faim d'être fou. Et Abimelech, il peut s'appeler Akif aussi, hein, ça s'appelle, voilà, c'est la même personne. Il a eu pitié de lui et il l'a fait partir, faisant comprendre qu'il avait assez de fou dans son royaume. Il ne manquait pas de fou. David, il a fait cette simulation sous l'effet de la peur, Mais ça doit quand même sauver la vie, il faut bien le reconnaître. Mais si vous lisez le récit dans 1 Samuel 21-12, il est dit que David avait une très grande peur. Lui, le vainqueur de Goliath, un homme de Dieu, qui aimait Dieu. Donc il est parti se réfugier dans la caverne d'Abinadab, d'où on suppose qu'il a écrit ce psaume. Voilà le contexte. Alors on voit que le péché entraîne la peur. David avait menti au sacrificateur, et inversement, la peur peut entraîner le péché, comme ça a été le cas pour David. Il s'agit d'un cercle vicieux. Comment sortir de ce cercle vicieux? Est-ce que vous avez remarqué que très souvent, nos peurs sont petites au début, mais après, elles grandissent. Elles grandissent au point de devenir des géants qui nous paralysent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su les combattre dès le départ, et avec les bonnes armes. Alors la peur a grandi. Elle a grandi à cause de nous, mais elle peut aussi grandir parce que la peur est contagieuse. Lorsque l'armée d'Israël était face à l'armée des Philistins, tout le monde avait peur de Goliath. Et le roi Saül y compris. Et tout le monde était persuadé que personne ne pourrait vaincre Goliath, sauf un homme, David. Un homme qui connaissait son Dieu. Parce qu'il avait passé du temps avec lui. On pourrait croire que le contraire de la peur, c'est le courage, en premier lieu. Mais ce n'est pas le courage. Contrairement aux idées reçues. Le contraire de la peur, c'est la paix. La paix qui vient d'une confiance inébranlable en Dieu, quel que soit le danger dans lequel on se trouve. La paix qui vient de notre foi en Dieu. Cette paix va ensuite nous donner du courage pour passer à l'action et pour agir. Et au départ, le contraire de la peur, c'est la paix dans notre cœur. Parce que c'est dans la peur naît dans notre cœur. Et la paix naît aussi dans notre cœur. David, c'était un homme qui n'était pas parfait. Mais il était un homme selon le cœur de Dieu. C'était de tels hommes que Dieu recherchait. Et David, il a fait une expérience d'une délivrance totale qui vient de Dieu lui-même. Et il a écrit ce psaume pour nous en faire profiter, nous son peuple, le peuple de Dieu, en nous enseignant ce que lui-même il a vécu. C'est un psaume, vous l'avez remarqué, qu'on pourrait qualifier de entier. Si vous avez compté les nombres de fois où vous avez des expressions telles que tous, rien, aucun, toujours, il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. Quand Dieu sauve, c'est à 100%. Et c'est son salut qui provoque notre louange en réponse. Alors, à partir de l'expérience de David, qu'il a consignée dans ce psaume, eh bien, voyons, deuxième point, voyons quels sont les remèdes contre la peur. On aspire tous à trouver des solutions contre la peur, nos propres peurs. Déjà, premier remède, c'est de, même si on est chrétien, c'est de ne pas les nier. Essayez de les reconnaître lorsqu'elles sont là. De les identifier, de mettre un mot dessus. De les reconnaître honnêtement quand elles sont là. David, tout vainqueur de Goliath qu'il était, eh bien, il a reconnu qu'il avait non pas une, mais plusieurs peurs. Et par contre, lorsqu'il s'en sort, eh bien, ça déborde. Quand il écrit ce psaume, il a été délivré. Ça déborde, il déborde de reconnaissance, de louange envers son Dieu. Et il dit au verset 1, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Remarquez l'insistance. Avec des mots tels que toujours, en tout temps. C'est une invitation à louer Dieu, sans cesse, dans les bons comme dans les mauvais moments. Parce qu'on a toujours cette habitude, ce réflexe. C'est une invitation à louer Dieu aussi bien dans les moments paisibles de paix que dans les moments de détresse, que dans la peur. Et ça demande un effort, de louer Dieu, en toutes circonstances. Alors, dans les versets du psaume que je vais citer, il y a peut-être un décalage avec vos versions. Donc ça peut être le verset d'après, dans ma version par rapport à la nôtre, il y a parfois des décalages. Hein. Donc par exemple, que mon âme se glorifie en l'Éternel, pour moi c'est le verset 2. Peut-être que chez vous c'est le verset 3, peut-être. Bon, en tout cas, donc ne soyez pas étonnés. David dit littéralement à Dieu qu'il est fier de lui. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, au verset 2. Littéralement, ça veut dire qu'il est fier. David est fier de Dieu. Et il dit au verset 5, quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quel est le contraire de la honte? C'est la fierté. Êtes-vous fier de Dieu ce matin? Vous ne voulez plus avoir honte? Vous ne voulez plus rougir? Eh bien, faites de Dieu votre fierté. Ne faisons pas dépendre notre identité de nos performances, de nos origines, de notre culture, de nos diplômes, de nos richesses. Et faisons-la plutôt dépendre de qui est Dieu et de ce qu'il a fait. Et lorsqu'on tourne vers lui, comme ça a été rappelé ce matin, eh bien on aura une juste vision de ce qui nous sommes, de ce qui nous arrive, comment bien interpréter la réalité des circonstances, et on aura une juste vision de notre valeur personnelle. Et on sera mieux à même de réagir dans des situations de détresse. La première chose, quand on a peur, on est dans la panique, on ne sait pas comment faire. Mais tout le monde regarde vers Dieu, et il va nous montrer comment réagir. Comment réagir devant le danger, qu'il soit réel ou imaginaire? Comment réagir devant l'humiliation? Eh bien, en comptant sur ce que Dieu est et ce qu'il a fait pour nous tous. Et puis, tourner le regard vers Dieu va aussi nous montrer si cette menace elle est bien réelle ou si elle est imaginaire, ou si elle est disproportionnée par rapport à la réalité. Mais même si elle est bien réelle, eh bien, on se rappellera que Dieu est tout puissant, quelle que soit la menace, et qu'il peut nous en délivrer. Parce que, à l'inverse, si on regarde à nous-mêmes, eh bien, honte, angoisse et découragement nous guettent, si Dieu n'est pas notre fierté. Alors, on est dans une région où, avec beaucoup de champs de tournesol, hein, chez les SKF, ça fleurit, et on se régale à regarder les tournesols. Est-ce que vous avez déjà observé les tournesols? Le cycle des tournesols. Tous les jours, ils se tournent en permanence vers le soleil. Tous les jours, ils ont la fleur tournée vers là où est le soleil. Donc, en fait, ils tournent d'est en ouest. Le soleil se lève à l'est, et ils suivent le mouvement du soleil. Et ces tournesols, est-ce que vous ne trouvez pas qu'ils sont rayonnants? Vous trouvez qu'ils ressemblent au soleil. Ils sont ronds, comme le soleil. Ils sont jaunes, comme le soleil. Ils ont des pétales en guise de rayons, comme le soleil. En fait, ils ressemblent au soleil. Et quand le soleil se couche, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en avance, le tournesol va se tourner vers l'est, là où se lève le soleil, comme s'il attendait, le tournesol attendait son lever. Pour être déjà, se trouver déjà tourné vers lui, ils anticipent. Et on a à apprendre aussi de cette chose, hein. Quand survient l'adversité, comment est-ce que nous réagissons? Est-ce que nous tournons vers le Seigneur? Est-ce que nous nous attendons au Seigneur en nous tournant vers lui avec l'assurance qu'il viendra aussi sûr que le soleil se lève à l'est? On peut éviter le tournesol sur ce point-là. Et puis bien sûr, donc, le remède contre la peur, c'est bien sûr, eh bien, comment vous vous tournez vers le Seigneur? Par la prière. Par la prière devant le danger. La prière n'est jamais hors sujet ou déplacée. Mais elle fait partie, bien sûr, du remède. Samson, jamais occupé chez Dieu. Ne vous dérangez pas. Il se fait un plaisir de nous entendre et de répondre à nos prières. Et il y a une prière, la prière la plus courte, c'est « Au secours Seigneur ». Là, on n'a pas le temps de réagir devant le danger. « Au secours Seigneur ». Et c'est même un cri. Un cri à Dieu, comme on peut lire au verset 6, 15 et 17. Est-ce que le Seigneur nous répond à notre travail parce qu'il entend notre cri? Eh bien, disons ces versets 6, 15 et 17. On va revenir sur les versets qui suivent. Verset 6. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Verset 15. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur cri. Verset 17. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Ayons cette assurance que Dieu nous entend. Qu'on crie ou pas d'ailleurs, mais très souvent on crie, hein, quand on est dans le danger. Mais lorsque nous tournons nos regards vers Dieu, Dieu tourne son regard vers nous. Il nous délivre. Et comment est sa délivrance? Sa délivrance est totale. Regardez les versets. Verset 4. Et on peut vraiment imiter le psalmiste. Verset 4. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Verset 6. Fin du verset 6. « Et il me sauve de toutes ses détresses. Verset 17. Et il les délivre de toutes leurs détresses. Alors, est-ce que vous êtes dans la détresse ce matin? Eh bien, Dieu attend que vous vous tourniez vers lui, et si vous êtes là ce matin, c'est déjà le cas, hein. Et il a promis qu'il vous entend, et il a promis qu'il vous répondra. Et qu'il vous délivrera, non pas de l'une, non pas de deux, non pas de la moitié de vos détresses, mais de toutes vos détresses. Il a promis. Et quand Dieu promet, Dieu tient toujours ses promesses. Ça ne veut pas dire qu'il répond là tout de suite, hein. On aimerait bien qu'il réponde là tout de suite immédiatement. Mais on est sûr qu'il répond. Et Dieu tient toujours ses promesses, et ce psaume, il est truffé d'autres promesses encore, pour combattre nos peurs. En voici deux autres. Verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Dieu est parmi nous, c'est une certitude. Il a établi son campement, littéralement, il a établi son campement parmi nous pour être toujours avec nous, s'il te plaît, en notre présence. Et est-ce que vous vous souciez du lendemain? Eh bien, voici une autre promesse pour vous. Verset 9. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Voilà une bonne raison de ne pas se soucier du lendemain, mais de rechercher Dieu. Mais vous avez remarqué que c'est dans ces versets, ces promesses ne concernent pas tout le monde, mais uniquement ce que la Bible appelle les justes, ceux qui craignent l'Éternel. Ce que confirme encore le verset 11, « Venez mes fils, écoutez-moi, et je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » Alors déjà, il nous invite à tendre l'oreille. Regardez le verbe employé par David, « Écoutez-moi », qui s'adresse à nous. C'est le même verbe employé au verset 6, qui dit que Dieu entend nos prières. C'est les mêmes mots. Dieu entend, nous sommes invités à entendre, à écouter Dieu. C'est les mêmes mots. Une question se pose, et il est bien qu'on se la pose à chacun. On est sûr que Dieu entend nos prières, mais nous, est-ce que nous écoutons Dieu? Est-ce que nous prenons le temps de l'écouter dans notre vie de tous les jours? Parce qu'il veut nous parler. Et qu'est-ce que David veut nous enseigner ici? C'est la clé du psaume. Vraiment, c'est une pépite là. En fait, Dieu, par la bouche de David, il veut nous enseigner cette grande vérité, qui est le remède par excellence contre la peur. Vous ne voulez plus craindre les hommes? Eh bien, craignez Dieu. Craignez Dieu. Et cette crainte de Dieu, elle est toute différente d'une crainte devant un danger. Gilles Georgel, qui a écrit un commentaire sur cet psaume, il a dit ceci: la frayeur paralyse et menace. La crainte de Dieu libère, car elle nous élève au-dessus du danger. Et oui, Dieu est tout puissant. La crainte de Dieu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, notre communion avec Dieu va de pair avec la crainte et le respect qu'il nous est. Bien sûr, il nous aime, on l'appelle papa. Oui. Et on peut, et comme tout père, bien effectivement, il est digne de respect. Et non seulement comme tout père, mais comme le père parfait qu'il est. Il est digne de respect. Alors, les versets que je vais citer là, précise ce que veut dire craindre Dieu. Le psaume explique bien qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu. Et dans les versets suivants, on va y retrouver toute l'éthique de la vie chrétienne. Alors après avoir expérimenté le salut de Dieu, voici ce que Dieu, voici ce que David nous enseigne, que Dieu par la Bible de David nous enseigne, et qui explique ce que signifie la crainte de Dieu. Verset 13, eh bien garde ta langue. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. David, il savait de quoi il parlait. Lui, il était déjà le Dieu de critique et de jalousie de la part du roi Saül. Et il avait succombé à la peur en mentant déjà au sacrificateur, à Ahimelech, sur les raisons de sa fuite. Et ensuite, ça a été comme un engrenage. Juste après, il allait faire le fou devant le roi des Philistins, là où il avait trouvé bon se réfugier. Et là, il a compris la leçon. Alors, pour nous, garder notre langue, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça signifie dire la vérité. Ça signifie fuir les critiques, comme de la peste. Et un bon moyen pour fuir les critiques, pour garder notre langue, eh bien, c'est ce que ça a compris David, c'est de louer Dieu en tout temps, en tout temps louer Dieu. Ce que nous exhorte le verset 1. Le temps passé à louer Dieu sera autant de temps en moins à critiquer les autres, à dire des mensonges. Parfois, la pression est là, la tentation est là. Deuxième exhortation, pour craindre Dieu, comment craindre Dieu? Eh bien, deuxièmement, verset 14, éloigne-toi du mal et fais le bien. Nous avons été sauvés pour nous éloigner du mal. Si Dieu nous aime, il nous aime malgré notre péché. C'est le fait de notre péché qu'il ne nous aime pas, mais il nous aime. Si Dieu nous a appelés tels que nous sommes, il ne nous avait pas restés tels que nous sommes, mais à rechercher la sanctification, à l'aimer toujours davantage. Comment? En nous laissant aimer par lui. Et le meilleur moyen de nous éloigner du mal, c'est d'être en mouvement, c'est de faire le bien. De faire le bien autour de nous. Et les occasions ne manquent pas. Dieu a préparé d'avance des œuvres pour que nous les pratiquions, Ephésiens 2, 8 et 9. Les œuvres sont là à notre portée. Faire le bien sera autant de temps en moins à faire le mal, quand on va se dépenser pour faire le bien, pour plaire à Dieu. Et enfin, verset 14. Comment craindre Dieu? Eh bien, verset 14, et c'est fort. Recherche et poursuis la paix. Recherche et poursuis la paix. En d'autres termes, le mot poursuivre, il est très fort. Il dit persécuter. Littéralement, persécute la paix. Ne la laisse pas tranquille. Ne la laisse pas en paix. Recherche-la. Poursuis-la ardemment pour la garder. Effectivement, dans ces trois. Cette éthique de vie, eh bien, on retrouve la vie chrétienne, qui commence par garder notre langue, par faire le bien, le bien et le mal, et à vouloir garder et rechercher la paix. Et peut-être vous trouvez ça, c'est pas évident, eh bien, vous ne pouvez pas garder votre langue, vous ne pouvez pas vous détourner du mal et faire le bien, et rechercher et poursuivre la paix, peut-être que ça vous améliorera un petit moment, mais ça ne va pas durer longtemps, vous ne pouvez pas être délivré de vos craintes si au préalable vous n'avez pas été sauvé par Dieu. Et rendu juste, non pas juste, non pas de votre justice, de notre justice, mais de sa justice à nous. C'est là que j'aborde mon troisième point, donc un appel plus qu'à vivre, mais à savourer le salut de Dieu. Le salut de Dieu. La vie a été sauvée par Dieu, c'est ce qui fait jaillir cette louange en nous. Et ça, il nous faut suivre. Regardez le verset 15. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Qui sont les justes sur l'Éternel, sur qui l'Éternel a penché son regard? Littéralement, il a posé ses yeux sur nous et il a tendu son oreille vers nous. Ce n'est pas un regard furtif, hein. C'est vraiment des anthropomorphismes, c'est ça? C'est lorsque il y a des comparaisons avec l'être humain, que Dieu a des yeux, il a des oreilles. Et il penche son regard vers nous. Voilà les justes. Mais qui sont ces méchants aussi? De qui il a détourné son regard cette fois? Verset 16, l'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. À la base, souvenons-nous que personne n'est juste devant Dieu. On a tous raté le coche à cause de notre désobéissance, à cause de notre péché. Et Dieu nous aime. Et Dieu a détourné momentanément son regard de son propre Fils bien-aimé. Innocent, lorsqu'il a porté
les nôtres sur la croix. Dieu a détourné ses regards de son Fils. Il portait nos péchés à ce moment-là. Il a fait cela pour pouvoir nous rendre justes et pour pouvoir pencher ses regards, ses yeux, ses oreilles sur nous en permanence. Jésus a fait ça pour nous. Jésus, le Fils de Dieu, a bien voulu payer de sa vie sur la croix pour racheter nos fautes et nous les pardonner. Si nous croyons en lui. Et le psaume en parle. Il parle de salut de Dieu. Regardez le verset 22. Dans une autre version, je lis ceci. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs. Et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera tenu pour coupable. Vous l'avez compris, il ne s'agit pas de notre propre justice. Il s'agit de la justice de Dieu, que Dieu nous offre. Alors, est-ce que ça veut dire que convertis-toi et tu n'auras plus de problème? Est-ce que ça veut dire qu'une fois qu'on est devenu chrétien, on n'a plus de problème? Regardez le verset 19. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alors vous êtes prévenus, hein. Ne soyons pas surpris par les épreuves qui nous tombent dessus. Et elles nous tombent dessus souvent. Le malheur atteint souvent le juste. On n'est pas pris de court. Mais Dieu nous fait cette promesse qu'il nous en délivre toujours. Toujours ne veut pas dire tout de suite, immédiatement. Il a délivré son fils. Mais il fallait qu'il passe par la croix. Alors, comment une telle délivrance est-elle possible ? Même dans la souffrance. Eh bien, Christ est mort pour nos péchés, mais il n'est pas mort dans son lit. Et il ne pouvait pas mourir dans son lit. Il fallait qu'il souffre pour porter nos péchés. Mais pas seulement nos péchés, il fallait qu'il souffre pour porter nos souffrances. Ésaïe, je vais citer Ésaïe 53, verset 4. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Christ a connu l'angoisse et la souffrance sur la croix. Il fallait qu'il souffre. Il a porté nos péchés, mais il a porté aussi notre souffrance. Il n'a pas souffert pour rien, mais aussi pour nous rendre capables d'endurer la souffrance. Il a souffert pour nous. Lorsque nous souffrons, nous aussi, eh bien, apportons notre souffrance à Jésus. Il nous comprend. Il a lui-même souffert. Il est ressuscité. Et croyons qu'il souffre avec nous lorsque nous souffrons. Il souffre avec nous dans nos épreuves, dans nos difficultés, pour nous aider à les traverser, pour qu'on puisse les supporter jusqu'au moment de la délivrance qui est sûre et certaine. C'est autant dans la détresse et la souffrance que dans la délivrance que nous éprouvons la présence de Dieu, de son amour, de sa présence constante, pour mieux le connaître. On peut souffrir parce qu'on a le cœur brisé. Peut-être parce qu'on a honte d'avoir eu peur à tel ou tel moment. Mais Dieu nous fait cette autre promesse au verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. C'est une promesse. Le mot brisé, le cœur brisé, eh bien c'est le même mot qu'au verset 20, lorsqu'il s'agit des os de Jésus. Des os, voilà. Enfin, du juste, et notamment ça concerne aussi Jésus. Verset 20, il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Ce verset fait référence prophétiquement à Christ sur la croix. Et il est cité dans Jean 19, verset 36, dans le Nouveau Testament, pour désigner l'agneau pascal dont aucun os ne devait être brisé, d'après la loi. Et effectivement, Dieu a veillé sur sa promesse. Il a veillé à ce qu'aucun os de son fils, l'agneau de Dieu, ne soit brisé par les soldats. Il a tenu sa promesse. Croyons aussi que celui dont aucun os n'a été brisé et qui est ressuscité, il tiendra aussi sa promesse de guérir ceux qui ont le cœur brisé pour les restaurer complètement, totalement. Un encouragement pour nous. David connaissait Dieu. Et je pense que c'est la plupart d'entre nous, hein. Nous sommes ici, dimanche après-midi, dimanche, on entend les messages. Et j'espère aussi que ça ne s'arrête pas au dimanche, que chaque jour, on prend du temps avec Dieu, on lit sa parole. David connaissait et il aimait Dieu, il avait une relation personnelle avec Dieu. Mais il ne pouvait pas garder pour lui-même, pour lui seul, la joie de sa délivrance. Ça débordait, il fallait qu'il en fasse profiter l'assemblée de Dieu, le peuple de Dieu. Est-ce que vous avez déjà vu des étudiants devant au lycée pour aller voir les résultats du bac ? Ils explosent de joie parce qu'ils ont eu le bac, mais ils peuvent pas le garder pour eux. Ils vont serrer leurs amis dans les bras tellement ils sont contents. Ils veulent partager leur joie. David, eh bien, il voulait fortifier le peuple de Dieu, nous, en l'invitant à louer Dieu avec lui à cause de ce que Dieu a fait pour lui. Verset 3. Et là, David nous invite. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. David savait de quoi il parlait. Au verset 4, il pouvait dire « Dieu m'a délivré de toutes mes frayeurs ». C'est pour ça qu'il pouvait dire à nous tous « Dieu les délivre de toute leur détresse ». Ça nous concerne à la fin du verset 17. On peut l'affirmer pour les justes justifiés en Jésus-Christ. David savait de quoi il parlait. Nous sommes le peuple de Dieu, l'Église. Si la peur est contagieuse, inversement, la confiance en Dieu est contagieuse. Et on se fortifie mutuellement. lorsque nous partageons nos délivrances, nos joies, nos bénédictions reçues de Dieu, et que nous louons Dieu tous ensemble. Pourquoi Dieu a-t-il conçu son beau projet qu'est l'Église? Eh bien parce qu'il savait qu'on est, c'est une des raisons, hein, parce qu'il savait qu'on est plus fort ensemble, dans ce monde, que tout seul. David, après sa totale délivrance, il pouvait nous lancer cette invitation, au verset 8. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. D'autres traductions disent goûtez. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Littéralement, goûtez et voyez, savourez la bonté de l'Éternel, son salut. Son salut, Dieu est appelé le sauveur. Et c'est ainsi qu'il s'est fait connaître à David. Et c'est ainsi aussi qu'il s'est fait connaître à nous, par son salut. Et lorsque nous expérimentons son salut, après avoir prié, après avoir crié à lui, eh bien nous expérimentons sa bonté. Et on ne peut plus s'en passer. Elle devient notre nourriture, sa bonté. Nous la goûtons, nous la savourons. Mieux qu'un fondant au chocolat, chaque jour. Parce que Dieu est bon. Nous célébrons Dieu personnellement, mais aussi en Église. Et puis bien sûr, ça ne s'arrête pas là. Ça déborde aussi des murs de l'Église. On veut faire connaître aux autres, qui ne sont pas encore entrés dans la bergerie, ce Seigneur, son salut, sa bonté. Ce réconfort dont nous avons fait nous-mêmes l'expérience, pour qu'il célèbre Dieu avec nous. Et ce salut, bien sûr, c'est à chacun de l'expérimenter. Pour lui-même. Je ne peux pas. Alors, je pense que c'est le cas de la plupart ici, hein, mais s'il y en a encore qui n'ont pas encore fait ce pas de placer la confiance en Christ pour être sauvés, je ne peux pas croire à votre place, ni vous à ma place d'ailleurs. Nos arguments, notre connaissance biblique, notre force de persuasion prennent fin là où c'est à la personne d'expérimenter elle-même le salut de Dieu et sa bonté, d'y goûter. On sort d'une période de canicule, là. Hein. Donc, je vais vous parler d'eau, si je vous parle d'un verre d'eau fraîche. Si vous avez soif, je peux vous parler longuement d'un verre d'eau fraîche qui déborde, un verre d'eau glacée avec des glaçons. Mais ça n'étanchera pas votre soif, à moins que vous preniez vous-même de cette eau, à moins que vous n'y goûtiez vous-même. Ça serait dommage de mourir de soif. À chacun de goûter lui-même que Dieu est bon, même dans les difficultés. Le bien et la joie suprême offerts à tous consistent à connaître personnellement le Seigneur et à être connu de lui par Jésus-Christ. Ça, c'est notre joie la plus profonde. Connaître le Seigneur et se savoir connu de lui. Et je termine avec le tournesol. Il y a quand même un point où il vaudrait mieux pas les imiter. En me promenant dans les rues de Belbéro, où il y a des champs de tournesol, il faisait gris et j'ai vu les tournesols, la fleur tournée vers le sol. En d'autres termes, ils avaient vraiment l'air tristes, tête baissée. Ils avaient la tête tournée vers le sol. Il faisait pas beau. Le soleil n'était plus là. Pourtant, le soleil physiquement continuait de briller, même s'il était caché par les nuages. Parfois, on a l'impression que Dieu n'est pas là. Mais dans ce cas, ne faisons pas comme les tournesols. Dans ce cas seulement. Mais rappelons-nous que Dieu, il a son regard en permanence tourné vers nous, à cause de son Fils Jésus-Christ. Alors nous aussi, ayons nos regards en permanence tournés vers lui. Amen.